Alors bonjour, j'espère que vous allez bien ce matin. Pour commencer, j'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles avec moi dans Jean au chapitre 14. Jean au chapitre 14. On est maintenant rendu à la doctrine du Saint-Esprit. On a survolé plusieurs doctrines jusqu'à maintenant. On a traversé la moitié de toutes les doctrines qu'on veut survoler. On est rendu à la 10e leçon sur 15, donc on avance bien et on est rendu maintenant à la doctrine du Saint-Esprit. Le but du survol, c'est de survoler les grandes doctrines de la foi chrétienne et telles que nous, on le croit ici à l'Église de l'Espoir et comment elles nous ont été transmises aussi à travers l'histoire de l'Église, ces grandes doctrines-là. Et de pouvoir être enraciné dans la saine doctrine. C'est ça certainement le but. Ce que Paul avait donné comme mandat à Timothée, c'est de prêcher la saine doctrine. Et ce qu'on veut faire ici à l'Église, c'est donner cette saine doctrine-là à travers ses cours, à travers la prédication. Et ce matin, on va voir ensemble la doctrine du Saint-Esprit à partir du passage dans Jean au chapitre 14. Et je vais lire à partir du verset 15. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Jude, non pas l'Iscariot, lui dit, « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? » Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, « Je m'en vais et je reviens vers vous, si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que, lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi, mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. » Alors, dans ce passage-là, évidemment, vous avez reconnu le discours de Jésus avec ses disciples, qui était avec ses disciples dans la chambre haute, dans les derniers moments de sa vie. Et alors que les disciples sont un peu troublés par le fait que Jésus vient de leur annoncer qu'il va partir, qu'il va mourir, qu'il va s'en aller au Père, au verset 1, il va dire « Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez en moi. » Et une des façons dont Jésus veut rassurer ses disciples, c'est en leur annonçant la venue du Saint-Esprit, le Consolateur. Et ce matin, on va regarder ensemble cette doctrine, apprendre à connaître un peu plus la personne du Saint-Esprit et son œuvre en nous, qu'est-ce qu'il fait en nous. Et je pense que c'est quelque chose d'important pour la vie chrétienne. Et juste avant d'aller plus loin, on va se courber, on va dire un mot de prière, demander à Dieu sa grâce pour nous ce matin. Alors, Seigneur notre Dieu, on est béni de pouvoir venir dans ta présence et tout ça à travers ce que Christ a accompli. Seigneur, tu nous dis dans ta parole qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et c'est un privilège pour nous de se présenter devant toi sans avoir rien à craindre, sans avoir à craindre un jugement ou une condamnation. mais à cause de Christ qui a reçu nos péchés sur lui, qui a subi notre châtiment. Maintenant, par la foi en lui, on peut avoir cet accès auprès de toi. Seigneur, merci du privilège qu'on a de te connaître. Seigneur, dispose nos cœurs ce matin, c'est ma prière, que tu puisses disposer nos cœurs à entendre ta parole, à entendre ce que tu as à nous dire ce matin et à apprendre à te connaître, à connaître ton Esprit Saint qui vit en nous. Seigneur Jésus, tu as rassuré tes disciples en disant que tu viendrais vers eux et c'est dans la personne du Saint-Esprit que tu es venu vers nous, Seigneur Jésus, et tu nous accompagnes tous les jours jusqu'à la fin du monde à travers ton Esprit. Merci, Seigneur, de ta grâce, de nous donner cette grâce, de ta présence dans nos vies. Viens par cette présence, par ta puissance, Seigneur, ouvrir nos cœurs à ta parole et que nous puissions être transformés par elle. Seigneur, qu'on ne puisse pas ressortir d'ici sans avoir reçu quelque chose de toi, sans avoir goûté à qui tu es, sans avoir apprécié combien grand tu es, combien bon tu es envers nous. Viens nous bénir ce temps, Seigneur, et c'est en ton nom qu'on te prie. Amen. La doctrine du Saint-Esprit, c'est probablement une des doctrines que dans nos églises, historiquement, si je peux dire, dans nos églises, surtout les milieux baptistes plus conservateurs, qu'on a été un peu plus frileux, si je peux dire, de parler de cette doctrine-là. Dans d'autres traditions d'église, dans d'autres dénominations, on voit beaucoup plus l'expression, si je peux dire, ou la recherche de l'expression des dons du Saint-Esprit ou des miracles que l'Esprit peut accomplir. On recherche plus ça, puis des fois, on tombe dans des extrêmes. On va se le dire, il y a parfois des extrêmes, des incompréhensions de comment l'Esprit agit aujourd'hui. Et en voyant ces extrêmes-là, parfois, nous, on est des gens de la parole. Les baptistes, c'est des gens de la parole. Et nous, on revient à la parole, mais on essaye de s'éloigner un peu de ces extrêmes-là ou ces excès-là parce qu'on a peur. On ne sait pas trop comment gérer ça. C'est-tu de même que l'Esprit agit? C'est-tu vraiment comme ça qu'on devrait vivre le Saint-Esprit? Puis là, on se tourne vers la parole parce que ça nous rassure un peu plus. Mais je pense que s'il y a une doctrine qui est importante à saisir pour la vie chrétienne, pour notre marche avec Dieu de jour en jour, c'est la doctrine du Saint-Esprit. Mais une doctrine du Saint-Esprit qui est fondée sur les Écritures, qui est fondée sur la révélation que Dieu nous donne. On a besoin de comprendre l'Esprit Saint, son œuvre en nous, sa personne et son œuvre en nous à partir de la révélation que Dieu nous donne. Et à partir de là, je pense que pour avoir étudié le sujet pendant quelques années déjà maintenant, je pense qu'on découvre encore de façon encore plus glorieuse, l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Et j'espère ce matin que pouvoir vous encourager et pouvoir aussi peut-être éclairer certaines questions qui peuvent être soulevées par rapport à cette doctrine-là, pour qu'on puisse vivre pleinement l'œuvre de l'Esprit en nous. Comme Paul dit, d'être rempli du Saint-Esprit de jour en jour pour qu'on puisse vivre pour la gloire de Dieu. Parce que, comme on va le voir, c'est le Saint-Esprit qui nous permet de faire ça, de vivre pour Dieu, de vivre pour la gloire de Dieu. Alors, ce matin, on va voir ensemble cette doctrine-là qui est importante et on va regarder ensemble la doctrine sous deux grands thèmes. Premièrement, on va regarder à la personne du Saint-Esprit, à sa divinité, le fait que le Saint-Esprit est Dieu. C'est quelque chose qu'on a touché, on a effleuré le sujet lorsqu'on a parlé de la Trinité, de la doctrine de la Trinité. Mais ce matin, on va aller un peu plus en profondeur sur sa divinité et aussi sur sa personne. L'autre volet, c'est son œuvre en nous. Il y a la personne du Saint-Esprit et ensuite de ça, comment le Saint-Esprit œuvre en nous. Et entre autres, son œuvre en relation avec l'inspiration des Écritures, la création, la vie et l'œuvre de Jésus-Christ, le salut des hommes et l'Église. Donc, on va voir qu'à travers toutes les Écritures, à travers toutes les grandes étapes du plan de rédemption de Dieu, l'Esprit est à l'œuvre. Il est à l'œuvre d'une manière particulière et on va essayer de le comprendre ensemble. Donc, on va voir que le Saint-Esprit occupe une place importante dans les Écritures et aussi pour nos vies aujourd'hui. Donc, pour commencer, on va regarder la personne du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est une des trois personnes en Dieu, comme on a vu lors de la doctrine de la Trinité, dans cette doctrine de la Trinité qui nous parle que Dieu est un, mais qu'il y a trois personnes qui se manifeste en trois personnes, mais il est trois personnes aussi. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ces trois personnes-là sont Dieu. Et donc ça, le Saint-Esprit, en réalité, c'est une personne. On va le voir un peu plus en détail pourquoi on dit qu'il est une personne et pas simplement une force ou une puissance de la part de Dieu. Il est vraiment une personne distincte. Mais premièrement, on va voir pourquoi on dit que le Saint-Esprit est Dieu. Premièrement, on voit que le Saint-Esprit est pleinement un être divin, qu'il possède les attributs de Dieu. Mais on voit dans les passages des Écritures qu'on voit un parallèle clairement établi entre le fait, lorsqu'on parle de l'Esprit, et lorsqu'on parle de l'Esprit, on réfère à Dieu aussi. Entre autres, dans Actes 5, Actes au chapitre 5, les versets 3 et 4, vous vous rappelez probablement ce moment-là où... Ananias et Saphira ont vendu un champ et puis ont menti sur le prix du champ, sur le prix que le champ a été vendu. Et à ce moment-là, Pierre va dire à Ananias, Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? » Remarquez bien ici, il a menti au Saint-Esprit. « Et que tu aies retenu une partie du prix du champ. S'il n'avait été vendu, ne te restait-il pas? » Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Donc, voyez le parallèle que Pierre fait ici. Il dit, pourquoi tu as menti au Saint-Esprit? Et ensuite de ça, en mentant au Saint-Esprit, tu as menti à Dieu. Et donc, on voit ce lien-là entre le fait que le Saint-Esprit et Dieu sont la même, réfèrent à la même personne. En mentant au Saint-Esprit, Ananias et Saphira ont menti à Dieu. Ils ont menti à la personne de Dieu. Un peu plus loin, dans 1 Corinthiens 2, Paul va exprimer aussi ce parallèle-là. Il va faire ce lien-là entre l'Esprit et Dieu. Qui dit au verset 11, 1 Corinthiens 2, 11, « Qui donc, parmi les hommes, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. » Donc, qu'est-ce que Paul est en train de dire? Qui connaît bien quelqu'un? Bien, son esprit qui vit en lui. Donc, l'esprit d'Alexandre, s'il y a quelqu'un qui connaît bien Alexandre, c'est l'esprit d'Alexandre qui vit en Alexandre. Pourquoi? Parce que l'esprit d'Alexandre, c'est Alexandre. Hein, c'est vrai? Ça fait partie de moi, ça fait partie de ma personne. Mon esprit, mon âme font partie de moi, ça fait partie de ma personne. Donc, si je peux connaître Alexandre, c'est parce que l'esprit d'Alexandre connaît Alexandre, parce que l'esprit est Alexandre. La même chose avec Dieu. S'il y a quelqu'un qui peut bien connaître Dieu, c'est l'esprit de Dieu qui vit en lui, parce que l'esprit est Dieu. Donc, encore une fois, Paul fait ce parallèle-là, comme Pierre a fait dans Actes 5, dans 1 Corinthiens 2, Paul est en train d'affirmer, l'Esprit de Dieu connaît Dieu parce que l'Esprit est Dieu. Donc, encore une fois, la divinité du Saint-Esprit qui est affirmée ici. Dans 1 Corinthiens 3, juste un chapitre plus loin, verset 16, Paul va encore faire le lien entre l'Esprit et Dieu. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » Comment Dieu habite en nous? Dieu habite en nous par son Esprit. Et on peut dire que Dieu habite en nous parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Et donc, vous voyez les liens là, logiques que je suis en train de faire. Lorsqu'on parle de l'Esprit de Dieu, on parle de Dieu. Lorsqu'on dit que l'Esprit de Dieu habite en nous, Dieu habite en nous. Lorsqu'on ment au Saint-Esprit, on menti à Dieu. S'il y a quelqu'un qui connaît le cœur de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu parce que l'Esprit est Dieu. C'est pas compliqué, hein? C'est simple. L'Esprit est Dieu et c'est ces passages-là qui nous montrent clairement que l'Esprit est Dieu et qu'on voit aussi qu'il possède les attributs divins. À travers toutes les Écritures, à l'ensemble des Écritures, les Écritures nous parlent de l'Esprit de Dieu, non seulement comme Dieu, mais comme possédant aussi des attributs divins. On a fait la même chose avec la personne de Jésus-Christ. Lorsque Basile a enseigné sur la personne de Jésus-Christ, il a montré les passages qui montrent clairement un lien entre le Fils et Dieu. C'est la même personne. Et puis après ça, on montre les attributs. Est-ce que l'Esprit de Dieu est éternel? Est-ce qu'il possède les mêmes attributs de Dieu? Est-ce qu'il est éternel? Est-ce qu'il est partout? Est-ce qu'il connaît tout? Bien, les Écritures nous montrent que oui. Dans le psaume 139, on voit que l'Esprit de Dieu est omniprésent. Ça veut dire qu'il est partout, comme Dieu. « Où irai-je loin de ton esprit? » C'est David qui parle. « Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Où irai-je loin de ton esprit? » On peut-tu se cacher de l'Esprit de Dieu? Impossible, parce que l'Esprit est partout. L'Esprit nous suit. L'Esprit est là et présent parce que Dieu est partout. Dieu est présent partout à cause de son Esprit. Et maintenant, je veux faire attention pour ne pas dire que l'Esprit, que Dieu est en tout. Ça, c'est une doctrine qui s'est développée à travers les années, surtout dans l'Église catholique, que le Dieu remplit toutes choses, dans le sens que Dieu est partout, dans le sens qu'il est dans le lutrin ici, dans ma bouteille d'eau, Dieu est partout, et c'est l'Esprit de Dieu qui est en toutes choses. Ce n'est pas ça. Dieu est partout présent, mais il n'est pas en toutes choses. Et ça fait une différence, parce que souvent, on est en train de dire que certaines personnes, eux, ils ont l'Esprit de Dieu, même s'ils ne sont pas croyants, on dit qu'ils ont l'Esprit de Dieu, parce que Dieu est en tout le monde. Ce n'est pas vrai, ça. Dieu habite chez ses enfants. Dieu n'est pas dans tout. Dieu n'est pas toute chose. Le lutrin, ce n'est pas Dieu. C'est quelque chose de distinct. C'est un objet distinct. Mais Dieu est présent. Dieu est présent par son esprit, mais pas dans toute chose. Juste faire une différence parfois dans ce qu'on peut entendre. On ne peut pas dire que Dieu est en tout, mais on peut dire que Dieu est partout. Deuxième attribut de Dieu qu'on peut donner au Saint-Esprit, on a lu le passage dans 1 Corinthiens 3:10, c'est qu'il est omniscient, il sait tout. Car l'Esprit de Dieu sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu est capable de connaître toutes choses, il connaît tout ce qui se passe dans le monde, il nous connaît, nous aussi, jusque dans les profondeurs de Dieu, parce qu'il est Dieu. Donc l'Esprit connaît tout. L'Esprit peut tout aussi. Il nous montre qu'il est capable de faire des miracles. Dans Luc 1, 35, qu'est-ce qui se passe? C'est l'ange qui va voir Marie pour lui dire « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Qu'est-ce qu'il va faire? Le Saint-Esprit est en mesure de venir sur quelqu'un puis de provoquer que la femme va concevoir un enfant même s'il n'y a pas eu de relation avec un homme. Donc, il y a un esprit créateur qui est capable de créer la vie, qui est capable de faire en sorte que Dieu le Fils va devenir un enfant. Ça prend toute une puissance pour faire ça. Et c'est l'Esprit de Dieu qui est tout puissant. Mais on voit plusieurs passages dans les Écritures, évidemment, nous montrent la puissance de Dieu à travers son Esprit, la puissance du Saint-Esprit. On n'a pas le temps de tout voir ça, mais juste des points. Je vous pointe juste vers quelques passages qui nous montrent combien le Saint-Esprit est tout puissant. Il est souverain aussi. Dans 1 Corinthiens 12, 11, c'est lui qui donne les dons du Saint-Esprit, qui donne les dons. Il dit, Paul qui dit encore une fois, un seul et même Esprit opère toutes choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Donc, il opère toutes choses, il est capable de faire toutes choses. En plus de ça, il est souverain sur les dons qu'il donne. Donc, il donne les dons à chacun, il les répartit comme il le veut. Donc, il est souverain sur les dons et aussi sur la création. Donc, ensuite de ça, un dernier attribut qu'on attribue souvent à Dieu, c'est le fait qu'il est éternel, qu'il n'a pas de commencement ni de fin. En Hébreux 9, 14, il ne nous parle pas clairement de cette doctrine-là, mais on voit que l'idée de le fait qu'il est éternel qui est associé à l'Esprit. Combien le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Donc, comment on qualifie l'Esprit? Ici, il est éternel. C'est par l'Esprit éternel que Christ s'est offert à la croix et qui a offert sa vie en sacrifice. Donc, encore une fois, l'Esprit de Dieu est éternel. Et qu'est-ce que ça nous montre? C'est que l'Esprit de Dieu possède les attributs de Dieu et à cause qu'il possède les attributs de Dieu, il est Dieu. Ensuite de ça, il y a le fait que le Saint-Esprit se distingue comme une personne. J'ai donné une liste là, dans vos notes là, de qu'est-ce qui montre que le Saint-Esprit possède les propriétés d'une personne. Premièrement, comme on l'a lu dans le passage ce matin, c'est un consolateur. Une puissance ça ne peut pas consoler. Ça prend une personne pour le faire. Moi, quand je veux consoler, quand que ma femme vit de la tristesse, je m'en vais auprès d'elle, puis elle a besoin d'entendre des paroles de consolation. Mais Dieu nous console. Puis les disciples, dans le passage, dans Jean 14, comment Jésus les console en leur disant, « Je vais vous envoyer un consolateur, une personne qui va... » Puis à travers cette personne-là, c'est moi qui vais être avec vous. Et donc, le Saint-Esprit est une personne parce qu'il est capable de nous consoler, il est capable de nous parler. On va le voir aussi. Il est possible de lui mentir. Donc, comme je suis capable de mentir à quelqu'un, on peut possible de mentir au Saint-Esprit. On l'a vu avec Ananias et Saphira. Il possède une sagesse dans 1 Corinthiens 2. Comme on l'a lu, le Saint-Esprit sonde toutes choses. Il y a une sagesse qui est là. Et donc, s'il possède une sagesse, c'est qu'il y a une intelligence qui est derrière ça. Pas juste une force, mais une intelligence. Donc, on voit encore une fois les attributs d'une personne. Il possède une volonté. Dans Jean 3, 8, il va dire, c'est Jésus qui parle à Nicodème, il dit « L'Esprit souffle où il veut. » Donc, l'Esprit agit là où il veut. S'il agit là où il veut, c'est qu'il possède une volonté. 1 Corinthiens 12, encore une fois, les dons qu'il distribue, il les donne à chacun selon sa volonté, selon ce qu'il veut. Donc, l'Esprit possède une volonté. Il éprouve aussi des sentiments, des émotions, si je peux dire, en termes de tristesse. On va dans Éphésiens 4, 30, Paul dit aux Éphésiens qu'il est possible d'attrister le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Donc, on peut une puissance, juste une force, on ne peut pas attrister ça. Ça prend le cœur de quelqu'un, ça prend une personne. On attriste une personne. Et donc, il a les propriétés d'une personne et il agit aussi comme une personne. Il conduit, il dirige, il parle, il enseigne, il rend témoignage, il réconforte, etc. Je vous les ai donnés avec les passages reliés parce qu'on n'a pas le temps de tout voir ça. Mais le Saint-Esprit est une personne qui agit. Et donc, une personne distincte dans la Trinité, qui a tous les attributs divins, qui est Dieu lui-même. Et donc, le Saint-Esprit est Dieu qui accomplit, est une personne en Dieu qui accomplit des œuvres. Et c'est ce qu'on va voir. Quelles œuvres le Saint-Esprit a accompli? Premièrement, Saint-Esprit a agi par l'inspiration des Écritures, dans l'inspiration des Écritures. Lorsqu'on dit que les Écritures sont inspirées de Dieu, ça veut dire qu'elles ont été données par Dieu. On va dire carrément dans l'original, dans 2 Timothée 3, 16, qui ont été soufflées par Dieu. Et le mot « souffle » et « esprit » dans le grec, le « pneuma », c'est la même. On peut le traduire les deux façons. Le mot pneuma, ça peut être le souffle et ça peut être l'esprit. Et donc, quand on parle que les paroles de Dieu ont été soufflées par Dieu, ont été données par Dieu, par son souffle, elles nous viennent de son esprit. 2 Timothée 3, 16 et 17, « Toute écriture est inspirée de Dieu, soufflée par Dieu, donnée par Dieu par son souffle, par son esprit. » C'est là qu'on voit le « inspiré ». Est utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. L'inspiration des Écritures, c'est l'Esprit qui était à l'œuvre dans l'inspiration. On le voit aussi dans 2 Pierre 1, 20, encore un petit peu plus clairement. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, l'Esprit-Saint, qui est l'œuvre de Dieu, qui est le souffle de Dieu, a créé les Écritures. Et donc, les Écritures ont été formées, inspirées par le souffle créateur de Dieu, qui est l'Esprit-Saint. C'est par le Saint-Esprit que les prophètes ont parlé de la part de Dieu. Les hommes ont écrit. Mais comment ils ont fait pour écrire les paroles de Dieu? Poussés par l'Esprit-Saint. C'est l'Esprit qui était à l'œuvre en eux pour mettre par écrit ce que Dieu a voulu qu'on reçoive. Et on croit fermement que les Écritures, la Bible, sont inspirées de Dieu d'une façon plénière et verbale. Ça veut dire que l'ensemble des Écritures ils nous viennent de Dieu par son Esprit. Et cela, les paroles des prophéties, ce que Pierre était en train de dire, ça ne venait pas d'eux, ça ne venait pas d'une volonté d'homme, ça ne venait pas de quelqu'un qui a forcé quoi que ce soit, ça vient de l'Esprit de Dieu. Les paroles qu'on a entre nos mains, la parole de Dieu nous vient de Dieu qui les a inspirées par son Esprit. Ensuite de ça, l'Esprit de, en lien avec les Écritures, et l'inspiration et l'autorité des Écritures, l'Esprit de Dieu fait une œuvre dans nos cœurs, à nous, pour qu'on puisse reconnaître l'autorité des Écritures. Parce que les Écritures sont inspirées de Dieu, parce qu'elles nous viennent de Dieu qui est l'autorité, qui est le souverain sur toutes choses, les Écritures, les paroles qui nous viennent de lui ont une autorité. Moi, je suis le papa de 4 enfants. Et lorsque je dis à mes enfants, « Va faire ton lit », ma parole a une autorité. Pourquoi? Parce que je suis le papa qui dit, « Va faire ton lit ». Si son ami à l'école dit, « Va faire ton lit », OK, je peux bien le faire si ça me tente, parce que tu me le dis. Mais si c'est le papa qui dit, « Va faire ton lit », les paroles qui sont prononcées, ils ont une autorité qui vient avec, parce que c'est le papa qui les a prononcées. Mais la même chose. Vu que les paroles viennent de Dieu, elles possèdent une autorité parce qu'elles viennent de quelqu'un qui a l'autorité. Et donc, le Saint-Esprit nous atteste que les Écritures ont une autorité. Pourquoi? Comment on peut savoir que les Écritures sont une autorité pour nos vies? C'est parce que le Saint-Esprit atteste à nos cœurs que Dieu est l'auteur des Écritures. Si on ne reconnaissait pas Dieu comme l'auteur des Écritures, on dirait que c'est un livre comme un autre. Comme la plupart des gens autour de nous vont dire, la Bible, c'est un livre comme un autre. On peut le lire puis prendre ce qu'on veut. Mais lorsque le Saint-Esprit agit dans nos vies pour nous faire voir que le Dieu en est l'auteur, on voit à travers ça qu'il y a une autorité à ça puis qu'on devrait la suivre. Et c'est Jean Calvin qui a amené cette idée-là lors de la Réforme, un peu pour se défendre contre l'Église catholique qui disait que c'est l'Église qui possède l'autorité et que c'est l'Église qui donne l'autorité aux Écritures parce que c'est elle qui a reconnu les Écritures. Jean Calvin a dit non, c'est pas l'Église qui a l'autorité, c'est les Écritures qui ont l'autorité. Et comment on fait pour savoir que les Écritures ont l'autorité? C'est parce que l'Esprit l'atteste à nos cœurs. Et il dit ceci, une longue citation pour vous, mais quand même, je la trouve merveilleuse pour nous aider à comprendre comment on arrive à reconnaître la Bible comme l'autorité. Calvin a dit, « Parce que les gens profanes estiment que la religion est seulement une question d'opinion et pour ne rien croire follement ou à la légère, ils veulent et exigent qu'on leur prouve par un raisonnement que Moïse et les prophètes ont parlé en étant inspirés de Dieu. À cela, je réponds que le témoignage du Saint-Esprit est meilleur que tout raisonnement. » Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Les gens non chrétiens, là, ils nous demandent des preuves pour dire que la Bible est inspirée de Dieu. Moi, je peux donner toutes les raisons possibles, tous les arguments possibles pour dire, regarde ça, c'est un argument pour l'autorité des Écritures. Il y a une prophétie qui s'est accomplie. Il l'a annoncé d'avance, ça s'est accompli. Je pourrais avoir tous les bons arguments. Ce n'est pas ça qui va convaincre un cœur. Ce qui va convaincre un cœur que c'est la vérité puis que c'est l'autorité, c'est Dieu par son esprit. Et c'est là que Jean Calvin appelait le témoignage du Saint-Esprit. Ça prend le témoignage du Saint-Esprit dans le cœur pour reconnaître l'autorité. Bien que Dieu soit son seul et suffisant témoin en sa parole, celle-ci ne suscitera cependant pas la foi dans le cœur des hommes si elle n'y est scellée par le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il est nécessaire que le même Esprit qui a parlé par la bouche des prophètes entre dans nos cœurs et les touche vivement pour les persuader que les prophètes ont fidèlement transmis ce qui leur était commandé d'en haut. Si je veux recevoir les paroles des Écritures comme l'autorité, si je veux recevoir les paroles des prophètes comme étant la parole de Dieu, j'ai besoin du témoignage intérieur du Saint-Esprit qui me convainc que le Dieu est l'auteur des Écritures. Et c'est comme ça qu'on l'accepte, l'autorité des Écritures dans nos vies. Et ça, c'est une des relations que le Saint-Esprit a, non seulement avec l'inspiration, mais avec le fait qu'on reçoit les Écritures. 1 Corinthiens 2, là, j'ai cité Calvin, mais je vais vous donner un argument biblique maintenant. OK? Ça vient de la Bible, ce que Calvin a dit. En 1 Corinthiens 2, les versets 12 à 16. « Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous, nous avons la pensée de Christ. Alors, qu'est-ce que Paul est en train de dire? On n'a pas reçu l'esprit de la sagesse du monde. On a reçu la sagesse qui vient du Saint-Esprit. On a reçu l'Esprit de Dieu. Et qu'est-ce que ça fait comme différence? Il y a une différence entre il y a un homme naturel et il y a l'homme spirituel. L'homme naturel qui n'a pas l'Esprit de Dieu, lui, qu'est-ce qu'il n'accepte pas les paroles de l'Esprit de Dieu. Il n'accepte pas la parole de Dieu. Mais quand on a le Saint-Esprit qui vient nous régénérer nos cœurs, qu'est-ce qu'on fait? On reconnaît que Dieu est l'auteur des Écritures et on accepte les paroles que l'Esprit a inspirées dans les Écritures. Voilà l'œuvre que l'Esprit fait pour qu'on puisse accepter l'autorité des Écritures. Ça me fascine de voir comment Dieu est vraiment souverain sur toutes choses. Pas seulement pour nous amener au salut en Jésus-Christ, mais il utilise sa parole, puis il nous convainc de l'autorité de sa parole pour arriver là. Et il continue de le faire aussi dans nos vies. Si on veut grandir dans nos vies spirituelles, dans notre vie pour le Seigneur, on a besoin de reconnaître que naturellement, je n'accepterai pas les paroles de Dieu. Mais lorsque je lis la parole de Dieu, puis ça touche mon cœur, puis que je veux changer, c'est l'œuvre de l'Esprit qui est dans ma vie qui fait ça. Sans ça, je n'accepterai pas la parole de Dieu. Je n'accepterai pas les paroles de l'Esprit de Dieu. Et c'est merveilleux ce que Dieu peut faire en nous pour qu'on puisse le connaître davantage, puis agir, vivre pour lui. Donc, j'ai pris un petit peu plus de temps que je pensais pour ça. Alors, on va rouler un peu plus pour les prochains points. Le deuxième point, c'est dans la création. Le Saint-Esprit était présent et actif lors de la création de l'univers. On voit ça dans Genèse 1 et 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et on voit quoi? Qui? L'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. Donc, il est clair à travers ce passage-là que l'Esprit de Dieu était présent au moment de la création. Le Saint-Esprit était là, était présent. Il se mouvait au-dessus des eaux. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça, exactement? Est-ce que ça veut dire qu'il était impliqué, lui, dans la création ou il était juste présent? Si on regarde d'autres passages dans les Écritures, on voit que l'idée du fait que le verbe qui est utilisé pour dire qu'il se mouvait au-dessus des eaux démontre pas seulement une action de lui-même, mais qu'il était actif aussi dans la création. Entre autres, dans le psaume 104:30, c'est le psalmiste qui parle, il parle des animaux dans les versets 25 à 30. Et là, je cite juste le verset 30, mais dans les versets 25 à 30, il parle de tous les animaux de la terre, etc. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, « Tu envoies ton esprit, ils sont créés, et tu renouvelles la face de la terre. » Donc, au moment où les animaux ont été créés, l'Esprit de Dieu était présent dans la création même des animaux. On ne le voit pas clairement dans Genèse 1 et 2, mais on le voit plus loin dans les Écritures. Mais si on veut voir l'action du Saint-Esprit dans la création, c'est vraiment dans la création de l'être humain que c'est évident. Dans Genèse 1, les versets 26 et 27, vous connaissez bien, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image ». Et donc, lorsqu'il dit « Faisons l'homme », on a vu lors de la doctrine de la création, que là, c'était une œuvre trinitaire, c'est au pluriel. Je dis, Dieu n'est pas en train de dire, je vais faire l'homme à mon image. Non, il dit, faisons l'homme à notre image, au pluriel. Pourquoi? Parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont ensemble dans la création pour créer l'homme. Et puis, à la fin, dans le récit de la création, plutôt au chapitre 2, ça dit que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Le souffle de vie, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, souffle, le mot hébreu qui est là, c'est ruach, ça veut dire souffle, mais on peut le traduire aussi par esprit. Est-ce que c'est le souffle ou c'est l'esprit? C'est là la question. Est-ce que c'est le souffle de Dieu mais c'est quoi le souffle de Dieu? C'est l'Esprit de Dieu. Et lors de la création, ce que je crois, c'est que l'Esprit est donné pour donner vie. Et l'Esprit est donné pas pour... C'est là, on ne possède pas l'Esprit qui sauve, mais plutôt l'Esprit qui anime toute chose. Et l'Esprit qui anime est donné au moment de la création pour qu'on puisse respirer, pour qu'on puisse vivre. pour vous convaincre de ça, Job 33, verset 4, c'est Élieu qui dit « L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. » Donc, au moment où le parallèle qu'on voit ici, c'est Dieu, l'Esprit de Dieu m'a créé. Comment? Parce qu'il m'a donné le souffle de vie. Et l'Esprit de Dieu était présent au moment, non seulement présent au moment de la création, mais était actif au moment de la création en créant les animaux et en créant les hommes. Pas toujours clair lorsqu'on lit les passages rapidement, mais lorsqu'on creuse un peu plus les Écritures, on voit que l'Esprit de Dieu n'est pas juste comme quelqu'un d'une troisième personne un peu plus distante. Non, il est présent. Il est là. Il était là dans l'inspiration des Écritures. Il est là pour nous faire accepter les Écritures. Il était là à la création. C'est lui qui nous donne le souffle de vie. L'Esprit, c'est celui qui nous anime. C'est celui qui nous donne la vie. Il était à l'œuvre aussi dans la personne et dans l'œuvre que Christ a accomplie. Non seulement au moment de la création, mais on voit aussi dans l'Ancien Testament. Là, je fais un gros saut là, jusqu'à Jésus-Christ, mais si on regarde dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs moments où l'Esprit est à l'œuvre. Entre autres, les rois d'Israël étaient loin du Saint-Esprit pour pouvoir conduire le peuple d'Israël. Certains, les prophètes, la même chose, ceux qui étaient les leaders d'Israël, possédaient l'Esprit de Dieu pour pouvoir conduire son peuple. Et même qu'à certains moments, l'Esprit de Dieu pouvait se retirer. L'Esprit qui dirigeait, l'Esprit qui conduisait Israël pouvait se retirer du cœur du roi, comme David va dire même dans le psaume 51, « Ne me retire pas ton esprit ». C'est l'Esprit qui l'animait pour conduire Israël. David reconnaissait que pour conduire le peuple de Dieu, il avait besoin du Saint-Esprit. Là, je fais un saut. Dans la personne de Jésus-Christ, dans tous les éléments de son ministère, que ce soit de sa conception jusqu'à son ascension, l'Esprit de Dieu est à l'œuvre dans la vie de Jésus-Christ. Premièrement, on l'a vu, on l'a lu dans Luc 1, comment Marie est tombée enceinte du Fils de Dieu par la vertu du Saint-Esprit, par le Saint-Esprit qui agit en elle pour faire naître cet enfant, pour créer cet enfant. Et donc, la conception et même la naissance de Jésus-Christ, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est par l'Esprit de Dieu, c'est par son Esprit que Dieu a agi dans la naissance, dans la conception de la naissance et même la croissance de Jésus. On voit dans Luc 2, à plusieurs endroits, que Jésus grandissait, il se fortifiait. On voit dans Luc 2, 40, entre autres, « Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Donc, on ne voit pas le Saint-Esprit vraiment à l'œuvre, clairement, explicitement dit ici. Mais comment Jésus faisait pour grandir, se fortifier? Comment il faisait pour avoir une intelligence comme supérieure à ce qu'un enfant de 12 ans pourrait dire à des hommes de la loi qui connaissaient toutes les Écritures? Il les impressionnait par son intelligence. Comment il pouvait faire ça? Comment il pouvait croître en sagesse, en stature, en grâce? Si on recule un peu dans Ésaïe, on voit que Ésaïe avait annoncé que l'Esprit de Dieu reposerait sur Christ, sur son Messie. Dans Ésaïe 11, les versets 1 à 3, il dit « Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. » Qu'est-ce qu'on voit? L'enfant Jésus qui a grandi à l'âge de 12 ans avait déjà l'Esprit de Dieu en lui. Et l'Esprit de Dieu était à l'œuvre dans le cœur de Jésus pour le faire grandir comme un enfant, devenir un adulte, mais un adulte avec une sagesse qui était complète. Et on voit ça dans d'autres passages aussi dans Ésaïe. Je crois que je vous les ai mis dans les notes. Ésaïe 42 et Ésaïe 50, pour aller les voir. L'Esprit de Dieu était à l'œuvre dans la personne de Jésus. Il était là, présent, lors de son baptême. Et puis, son baptême était un symbole de son onction. Le mot « Christ », « Messie » veut dire « loin », celui qui est loin de l'Éternel. Il a reçu une onction. Et son baptême était, lorsqu'on voit Jésus qui est baptisé, que l'Esprit de Dieu descend sur lui comme une colombe. C'était une manifestation qu'il était loin de l'Éternel, celui qui avait reçu l'Esprit de Dieu pour accomplir le ministère prophétique. Et son ministère sur la terre était rempli du Saint-Esprit. Acte 10, c'est Pierre qui parle en prêchant. Il dit, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Et donc, l'Esprit de Dieu était présent dans l'œuvre de Christ. Il est présent lors de sa tentation. C'est l'Esprit qui l'amène au désert pour qu'il puisse être tenté par le diable. C'est l'Esprit de Dieu le conduit. Et l'Esprit de Dieu l'accompagnait dans tout son ministère terrestre. Dans Luc 4, c'est Jésus qui lit les paroles d'Ésaïe et qui se les approprie. Il dit, ces écritures-là sont accomplies aujourd'hui. Il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Donc, le ministère de Jésus, son ministère au complet, était une œuvre remplie du Saint-Esprit. Il était rempli du Saint-Esprit, il agissait par l'action du Saint-Esprit. Évidemment, Jésus est allé jusqu'à sa mort, il est ressuscité, il est retourné au ciel, et toutes ces étapes-là, encore une fois, sont l'œuvre où le Saint-Esprit est à l'œuvre dans tout ça. Hébreux 9, 14, dans sa mort, quand il s'est offert en sacrifice, on l'a lu tout à l'heure, il s'est offert par l'Esprit éternel. C'est par l'Esprit de Dieu que Christ s'est rendu jusqu'à la croix. C'est l'Esprit qui a poussé Jésus pour l'amener jusqu'au moment de la croix pour s'offrir en sacrifice. Aussi dans l'œuvre de la résurrection, l'œuvre de la résurrection, on voit dans le Nouveau Testament, qui est attribuée à la fois au Père, à la fois au Fils et à la fois au Saint-Esprit. Et dans 1 Pierre 3, 18, c'est là qu'on voit que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre dans la résurrection de Christ. Christ a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'Esprit. Donc, comment il a été rendu vivant? Par rapport à l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre encore une fois. Et dans 1 Timothée 3, 16 aussi, Paul dit que Christ a été justifié par l'Esprit, dans un sens que sa mort a été reconnue comme vraie. Comment? Par sa résurrection. Et on voit que c'est une mort qui est capable de nous donner le salut par le fait que l'Esprit l'a ressuscité d'entre les morts. Et ensuite de ça, après son ascension, l'Esprit est à l'œuvre comment? En venant sur la terre, dans nos cœurs, en venant habiter dans les enfants de Dieu, dans Jean 14, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Beaucoup de choses, hein? L'Esprit est à l'œuvre, l'Esprit est présent, l'Esprit est là. Il est à l'œuvre aussi dans notre salut d'une manière incroyable. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire. Je vais y aller, essayer d'aller dans les choses les plus les principales. Premièrement, le Saint-Esprit apporte la conviction de péché. Si on veut venir au Seigneur, si on veut reconnaître notre état de pécheur, nous repentir de nos péchés, recevoir le pardon qui est en Jésus-Christ, j'ai besoin de savoir que je suis un pécheur puis de reconnaître que je suis un pécheur. Comment je vais être convaincu que je suis un pécheur? La parole nous dit que c'est l'Esprit de Dieu qui fait cette œuvre-là. Jean 16, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Donc, par sa grâce, qu'est-ce que l'Esprit fait? Il convainc les cœurs de péché, de rébellion, pour reconnaître en Jésus-Christ le seul moyen d'être sauvé et de voir Jésus-Christ comme le moyen de salut. Celui qui a été agréé par le Père, qui a été reçu dans le temple céleste avec le sang qui a été versé, qui a traversé le voile et qui a de voir en lui le moyen de salut, celui qui me donne accès auprès du Père. Donc, l'Esprit de Dieu, c'est ce qu'il fait. Il vient nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Ensuite de ça, l'Esprit est à l'œuvre dans notre régénération, dans le fait qu'on est de nouveau. On voit dans Jean 3, Jésus qui dit à Nicodème, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. » Donc, la nouvelle naissance, être né de nouveau, ça veut dire être né de l'Esprit. Et qui fait ça? C'est l'Esprit de Dieu qui provoque ça, qui provoque cette nouvelle naissance, qui fait en sorte que je me repens de mes péchés, je place ma foi en Jésus-Christ. Donc, la nouvelle naissance, ce n'est pas le fruit d'un effort humain quelconque, c'est le fruit de la grâce de Dieu, de l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie d'une personne. Et ensuite, ça se manifeste par la foi et la repentance. Ce n'est pas la foi et la repentance qui me donnent l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui me donne un cœur nouveau pour me repentir et croire. C'est ce que je crois. Oui. Oui. Oui, je vais le dire comme ça, c'est la purification qui est référée là. Mais si vous voulez aller lire Ézéchiel 36, je pense que Jésus réfère à Ézéchiel 36 lorsqu'il parle de ce passage-là. Et puis, justement, je peux vous le lire, je l'ai ici, là. Dans Ézéchiel 36, le prophète dit, c'est l'Éternel qui parle, il dit, « Je répandrai sur vous une eau pure. » Et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur, de corps, le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Et lorsqu'il dit né d'eau et d'esprit, dans Jean 3, je pense que Jésus réfère à ce passage-là dans Ézéchiel 36 qui dit oh, oui, oui. C'est dans un sens, c'est l'idée d'une purification. On peut lire aussi dans Tite 3, plus loin, c'est pas nécessairement le baptême qui est représenté, qui est dit là. C'est pas le baptême qui sauve, mais probablement que le baptême représente ce qui s'est passé. Et lorsque je pense au sens figuré, qui nous purifie par l'eau et l'esprit. C'est l'Esprit qui vient faire son œuvre en nous. Et souvent, on voit dans les Écritures que l'eau et l'Esprit sont reliés ensemble. Et je pense que c'est l'œuvre de l'Esprit de venir nous purifier, de venir enlever notre cœur de pierre, nous donner un cœur de chair. Et c'est une image, je crois, ici. Et qui, oui, c'est ça. Bien, ça peut être relié, mais je pense vraiment qu'ici, là, il y a un symbole, une image qui est employée. On va dire, pour nous purifier, pour se laver, de quoi on a besoin? On a besoin de l'eau pour se purifier. Okay? Et lorsqu'on se lave, on prend de l'eau, mais c'est un peu la même idée. Je vais répandre sur vous une eau pure pour vous rendre pur. Et comment ça va se passer? C'est à travers l'Esprit de Dieu qui vient en vous. Fait que c'est ma compréhension. Il n'y a pas de problème. Donc, ensuite de ça, on voit que l'Esprit nous régénère, nous donne. Puis là, il nous le dit dans Tite 3, juste pour appuyer ce que je viens de dire, il dit « par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit ». Et donc, le bain, encore une fois, l'eau qui est employée, comment on devient une nouvelle personne, c'est par une eau pure qui est placée sur nous, un bain qui nous renouvelle et l'Esprit de Dieu qui vient en nous. Je ne crois pas que ça réfère au baptême, je crois que le baptême représente ça. Et puis, c'est parce que ce n'est pas le baptême qui me purifie, c'est l'Esprit de Dieu et l'œuvre de Christ qui me purifie. Ensuite de ça, le baptême manifeste ça. Ensuite de ça, c'est donc l'Esprit est à l'œuvre pour nous convaincre de péché, pour nous donner une nouvelle naissance. Et ensuite de ça, on est baptisé du Saint-Esprit. Tous les croyants qui ont placé leur foi en Jésus-Christ, ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas quelque chose qui se passe ultérieurement, que je dois rechercher par l'imposition des mains, mais plutôt... Lorsque j'ai cru, j'ai été baptisé du Saint-Esprit par Jésus au moment de ma conversion. Et pourquoi je crois ça? C'est parce que dans 1 Corinthiens 12, les versets 12 et 13, Paul dit, il parle à toute l'Église à Corinthe et est en train de toutes les inclure ensemble. Il dit, « Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. » Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Donc, tous les croyants qui ont été régénérés par le Saint-Esprit ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Et je ne crois pas, comme dans d'autres dénominations, entre autres le pentecôtisme classique, qui va dire, une fois que je me suis converti, j'ai placé ma foi en Jésus-Christ, je me suis repenti de mes péchés, j'ai besoin de rechercher le baptême du Saint-Esprit par la suite. Je ne crois pas ça du tout. Je crois qu'au moment de ma conversion, j'ai vécu le baptême du Saint-Esprit. Et qu'est-ce que je dois rechercher par la suite? C'est d'être rempli du Saint-Esprit et porter du fruit de l'Esprit dans ma vie. Mais je n'ai pas deux classes de chrétiens devant moi. Ceux qui sont convertis, mais qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit, puis ceux qui l'ont reçu. Je n'ai pas deux niveaux, là. J'ai ceux qui sont convertis à Jésus-Christ ont le Saint-Esprit, ont été baptisés du Saint-Esprit. Parce que Paul le dit, nous tous, on a été baptisés dans un seul esprit. Le Saint-Esprit est aussi à l'œuvre dans notre sanctification, là où l'Esprit de Dieu, là où or le Seigneur, c'est l'Esprit, dans 2 Corinthiens 3, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté, nous tous dont le reflet, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Donc, comment on est transformé à l'image de Jésus-Christ? Une fois qu'on est converti au Seigneur Jésus, qu'on a lui donné notre vie, le Seigneur, son but pour nous, c'est de nous rendre semblables à l'image de Christ. Comment il le fait? À travers son Esprit qui nous transforme de gloire en gloire, de progrès en progrès, vers la stature parfaite de Jésus-Christ. Donc, la sanctification, c'est la transformation de nos cœurs, la transformation de nos vies, qu'on reflète Jésus-Christ, qu'on devienne l'image de Christ. Qui fait cette œuvre-là en nous? C'est l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est lui aussi, c'est lui qui nous aide à chaque moment, chaque instant dans notre marche avec le Seigneur. Le Saint-Esprit est à l'œuvre dans l'Église aussi. On va terminer avec ça. La venue du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte, en acte 2, lorsqu'on lit le passage, on voit que l'Esprit vient sur les disciples qui sont assemblés dans la chambre haute. Ensuite de ça, ils prêchent l'Évangile. Les gens reçoivent le Saint-Esprit aussi par la prédication et par leur conversion à l'Évangile. Et donc, l'Église est créée, la nouvelle alliance est inaugurée au moment où le Saint-Esprit descend sur les apôtres. Et le Saint-Esprit, c'est celui qui va fortifier l'Église pour accomplir sa mission. Dans Actes 1, 8, Jésus dit, « Vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit qui survient sur vous, et vous allez être mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. » Comment l'Église est capable de prêcher l'Évangile puis proclamer ce que Christ a accompli pour eux? C'est par la puissance du Saint-Esprit qui agit dans les croyants. Il y a d'autres versets, je suis obligé de me dépêcher pour terminer, là, mais je vous invite à aller les lire, de voir comment l'Esprit est à l'œuvre et fortifie l'Église pour accomplir sa mission. C'est celui qui donne aussi les dons à l'Église pour son édification. Donc, le but des dons du Saint-Esprit, c'est d'édifier l'Église locale, pas pour une gloire personnelle. Moi, j'ai ce don-là, puis je suis capable de faire ça, puis je suis capable de faire des plus grandes choses que certains autres chrétiens. Non. J'ai reçu un don du Saint-Esprit pour le mettre à l'œuvre pour le corps de Christ. Pas à m'enorgueillir de ça, mais plutôt m'humilier, dire « Merci Seigneur pour le don que tu me donnes, puis maintenant je veux servir ton Église. Je veux mettre à profit le don que tu m'as donné. Je veux que la gloire te revienne. Gloire à Dieu, parce que Dieu me donne un don particulier pour que je puisse enseigner ou que je puisse servir dans des ministères. » Et le but de ça, c'est l'édification du corps de Christ. On veut, par l'Esprit de Dieu, s'édifier ensemble. Et là, on parle souvent, je vais terminer avec ce petit point-là, on parle souvent de dons miraculeux. Est-ce que les dons miraculeux continuent et persistent dans l'Église? Lorsqu'on parle des dons miraculeux, on parle entre autres du don des langues, de la prophétie, l'interprétation des langues, les dons de guérison, etc. C'est une grande question parce qu'on en connaît. Il y a des églises autour de nous qui croient que les dons continuent. Il y a d'autres églises qui croient que les dons ont cessé. Entre autres, je vais juste présenter un peu ces deux positions-là. Ceux qui croient que les dons ont cessé, croient que les dons étaient particulièrement utilisés au temps des apôtres pour attester l'œuvre de Christ en attendant que toutes les Écritures, que le canon des Écritures, que l'ensemble des Écritures soient écrits. Et puis, dans un sens, une fois que les Écritures ont été complétées, on n'a plus besoin de ces miracles-là parce qu'ils nous sont relatés dans les Écritures et les Écritures sont suffisantes pour nous convaincre puis nous amener au salut. Donc, les miracles étaient dans le temps des apôtres pour approuver, confirmer le message de l'Évangile jusqu'à temps que les Écritures soient complétées. Et puis, à partir du moment où les Écritures sont complétées, les Écritures sont toutes suffisantes, on n'a plus besoin d'avoir des miracles pour attester les choses parce que la parole de Dieu est vraie et elle nous convainc. Ça, c'est ceux qu'on appelle les cessationnistes, ceux qui disent que les dons miraculeux ont cessé. Ça ne dit pas que tous les dons ont cessé, mais particulièrement les dons miraculeux. Il y a des autres qu'on appelle les continuistes, ceux qui croient que les dons continuent d'œuvrer dans l'Église. Et ceux qui croient que les dons continuent, il y a certains, à certains niveaux. Il y en a qui croient que les dons continuent, mais pas de la même manière que dans le Nouveau Testament. D'autres vont croire que non, les miracles là, que Jésus faisait sont disponibles aujourd'hui. On peut guérir des gens, quelqu'un est malade, je vais m'imposer les mains, je vais prier, puis cette personne-là, elle a la foi, elle va être guérie. Toutes sortes de choses qu'on peut croire par rapport à ça. Et donc, ça, c'est ceux qui sont continuistes. Voici ce que je crois. Et que je pense qu'il est quand même partagé par l'ensemble des pasteurs ici, cette conviction-là. Ma conviction, c'est que je ne vois pas dans les Écritures un moment où Dieu va dire que les dons vont cesser totalement. Si je cherche les Écritures puis que je creuse puis j'essaie de comprendre, il peut-tu avoir encore des dons miraculeux ou Dieu dit que ça a vraiment cessé là, quand les Écritures ont été écrites? Je ne suis pas capable de trouver ça. Et donc, là où je vais me ranger, c'est de regarder dans l'histoire de l'Église, depuis justement que le canon des Écritures est complet, depuis le temps des apôtres, est-ce que c'est pareil comme dans le temps du Nouveau Testament? J'ai pas l'impression, comme dans le temps des apôtres, je n'ai pas l'impression que c'est la même chose. J'ai l'impression qu'il y a comme une diminution de l'action des dons miraculeux. Est-ce que ça veut dire que c'est impossible qu'il y en ait? Je pense que c'est possible. Dieu est tout-puissant et Dieu peut faire toutes choses. Et l'Esprit de Dieu est tout-puissant. Dieu peut faire toutes choses par son Esprit s'il le désire de le faire. Mais je dois être conscient que je regarde dans l'ensemble de l'histoire de l'Église et j'en vois moins. Et si je veux voir les dons miraculeux à l'œuvre, je dois les regarder puis regarder dans les Écritures comment ça fonctionne. Si j'ai quelqu'un qui parle en langue, qui me dit « j'ai un don des langues », OK, comment les Écritures nous disent que ça fonctionne? Mais s'il y a un don qui a des langues, il y a quelqu'un qui doit interpréter. Il doit y avoir quelqu'un qui a un don d'interprétation. On va examiner. On va user de discernement pour voir est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vient de l'Esprit de Dieu. Et ce que je crois, c'est que Satan, Paul nous dit que Satan se déguise en ange de lumière aussi. Fait que ça peut arriver parfois que ça a l'air que ça vient de Dieu, puis waouh, des miracles. Est-ce que c'est à cause qu'un miracle arrive que ça vient nécessairement de Dieu? Non. Il y en a qui accomplissent des miracles, puis ils n'appartiennent même pas à Dieu, ils vont être jugés à la fin. Alors, je dois user de discernement. Et c'est ce que l'histoire de l'Église m'enseigne. Discerner, est-ce que ça vient vraiment de Dieu? Je ne veux pas nier les témoignages. J'entends des témoignages de missionnaires sur les champs de mission qui voient des miracles extraordinaires. Moi, je n'en ai jamais vu de mes yeux. Quelqu'un qui était aveugle, on lui a imposé les mains, il a recouvert la vue. Je ne l'ai jamais vu. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver. Je pense que Dieu peut le faire. Mais est-ce que je dois absolument courir après ça, essayer de chercher absolument d'avoir de la guérison dans l'Église? Je ne pense pas parce que je pense que Dieu a diminué et Dieu n'agit pas toujours de la même façon. Si Dieu veut le faire, il va le faire, mais je dois user de discernement avec ça. Alors, je vous ai donné en 2 minutes ma position sur les dons miraculeux. Je pense qu'on veut suivre les Écritures, être fidèle aux Écritures lorsqu'on applique les dons du Saint-Esprit et s'assurer que, par la grâce de Dieu, on use de discernement. Puis tout ça, pas pour la gloire des hommes, pour la gloire de Dieu. Amen. On va se courber. Seigneur notre Dieu, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Seigneur, il y a des sujets qu'on pourrait prendre des semaines à expliquer. Et on essaie de le faire en 5 minutes, puis on est conscient que des fois, ça ne suffit pas. Mais par ta grâce, Seigneur, tu nous nourris par ta parole. Tu nous donnes ton esprit qui nous fortifie, qui nous équipe pour la mission. Et on te prie, Seigneur, que tu puisses nous aider à grandir dans notre compréhension de l'œuvre de ton esprit dans nos vies. Qu'on puisse, premièrement, avant de rechercher toutes sortes de dons extraordinaires, qu'on puisse premièrement rechercher la sainteté, parce que ça, c'est clair dans ta parole, Seigneur. Tu nous appelles à vivre dans la sainteté, et c'est par ton esprit que tu accomplis cette œuvre-là en nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, qu'on puisse vivre plein, en étant rempli de ton esprit, qu'on puisse être des témoins pour toi avec la force et la conviction que ton esprit nous donne pour qu'on puisse voir ta gloire autour de nous à travers des gens qui viennent à toi parce que l'Évangile est puissamment annoncé et des gens qui se tournent vers toi. et transforme ton Église, Seigneur, afin qu'elle puisse vivre pour toi et pour ta gloire dans la sainteté. Et garde-nous, Seigneur, jusqu'à la fin par ton esprit pour qu'on puisse te voir face à face. Et merci pour ta grâce envers nous et ton esprit qui est une grâce extraordinaire dans nos vies. Viens nous conduire pendant cette célébration. Garde nos cœurs ouverts à ta parole et remplis nos cœurs de ton esprit pour qu'on puisse te chanter des louanges parce que tu es digne de recevoir toute la gloire et l'honneur par notre bouche et par nos vies. Et c'est dans le nom de Jésus qu'on te prie. Amen.